Et nous recevons Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir Catherine. Je vous remercie de m'accorder l'antenne pour m'exprimer.
Mais je vous en prie, elle est là pour cela.
Oui, je voulais faire réponse à une auditrice qui a appelé il y a 2 ou 3 jours et qui avait très peur de la vaccination parce qu'elle avait une maladie que je ne connais pas. Donc, je voulais lui dire que beaucoup de personnes avaient peur et moi en premier parce que j'ai perdu mon mari le 30 juin suite à la 2e injection de Pfizer. Il a été vacciné le jour de l'Ascension et le lendemain matin, il a été subitement pris de vomissements. Ces vomissements se sont reproduits dans la soirée. Le samedi, il n'était pas tellement bien, mais n'a pas vomi. Le dimanche, il était complètement fiévreux, mal. Il s'est couché, on lui a pris sa température, il avait 38, presque 39. Et là, je lui ai dit, il faut appeler un médecin. Il me dit, oh non, c'est certainement une conséquence du vaccin. Nous avons attendu la nuit et le lendemain matin, il avait des diarrhées, mais alors vraiment très fortes. C'est alors que j'ai appelé le 15 et que l'on m'a envoyé un médecin de SOS qui m'a dit, madame, vous avez beaucoup attendu parce que le cœur se fatigue. Là. Je ne comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire parce que entre des vomissements et de la diarrhée, je ne voyais pas le rapport. Et c'est arrivé à la clinique, aux urgences, que là, on m'a dit, il a eu de très fortes pulmonaires. Comment ça s'appelle ? Je ne trouve pas le nom.
Bon, je ne peux pas vous aider.
Une
infection pulmonaire ?
Une très très forte infection pulmonaire.
D'accord.
Alors on l'a mis en pneumologie. Puis comme il supportait très mal les masques et qu'il avait tendance à les enlever, on l'a mis dans une petite unité de soins où, si vous voulez, il était en surveillance permanente.
Mm-hmm.
Là, il est resté quelques jours et il a failli déjà partir. Parce que 2 antibiotiques ont été essayés, lesquels n'ont donné aucun résultat. Mon fils, qui est à 800 km, est venu. Et là, on leur a dit, un soir, on les a appelés très tard, à 11h, pour leur dire, voulez-vous que l'on ranime votre papa ? Ils sont allés en vitesse, très très rapidement, à la clinique. Et là... je crois qu'un médecin a eu l'idée de mettre 2 antibiotiques à la fois, et c'est ce qui l'a, je pense, sauvé. Il est resté encore quelques jours dans cette unité, puis il est redescendu et est allé en pneumologie, où on a continué les soins, et ma foi, il était assez bien.
Donc ça, c'était ça a duré combien de temps entre le moment où il est tombé malade et puis... Ce moment de relance.
Donc, on l'a rentré en clinique le 17 mai et il est rentré à la maison le 15 juin.
D'accord.
Donc... Alors là, un monsieur qui s'occupe de l'oxygène est venu porter un appareil, lequel avait un cordon qui allait vers le séjour et l'autre dans la chambre. Et il lui avait bien dit. Le jour, vous mettez la lunette et la nuit, vous mettez le masque. Seulement, il a désobéi, c'est-à-dire que il a gardé la lunette aussi bien la journée que la nuit.
Donc, il avait moins d'oxygène, du coup.
Il avait moins d'oxygène.
Bien sûr.
Donc, le 18 au matin, c'est-à-dire nous sommes le vendredi et il est rentré le mardi, le vendredi matin, il me dit, il m'appelle, puisque j'étais dans la chambre à côté, et me dit, écoute, veux-tu appeler les secours ? J'étouffe, je suis très mal. Alors, je recommence, je fais le 15, et cette fois, il arrive les pompiers qui me disent, il désature, il faut vraiment l'amener le plus vite possible au CHU. Mmh. Là, on le met aux soins intensifs, où il est resté quelques jours. Là, il a encore vomi et eu diarrhée.
Mmh.
À partir de ce moment-là, il avait déjà pas beaucoup d'appétit, et puis en plus, c'était sans sel. Donc, il perdait des forces. force. Et enfin, un soir, j'étais là, présente, quand ils lui disent, eh bien, écoutez, on descend dans une chambre normale, il y a du mieux, on finit les soins intensifs. Donc, on la met dans une chambre conventionnelle, et là, ça a été pendant 2 à 3 jours, mais il s'alimentait très peu, il mangeait surtout les desserts, il n'avait pas du tout d'appétit. Et ils me disent, d'autres soirs, il va falloir le remettre aux soins intensifs, car il y a un peu d'eau encore dans les poumons, et le cœur n'est pas au top. Mmh. Donc nous remontons aux soins intensifs, et là, il s'est éteint le 30 au soir. Voilà.
D'accord.
Alors, que ce soit la famille, que ce soit les amis, le voisinage, tout le monde est stupéfait de ce décès. C'est pas que l'on veut dire que mon mari n'avait pas de grosses pathologies, parce qu'il avait eu également, en 2015, un début de cancer de la prostate. Mmh. On lui avait fait des rayons. À la suite de ça, il avait eu une chose assez rare, d'après l'urologue, il avait eu un abcès dans la prostate qui mesurait 7 cm. Mmh. Donc, il lui a raboté. Puis alors, en plus, en tant qu'ancien fumeur, il avait de l'artérite. Et également, depuis 3 ans qu'il avait arrêté, il avait pris près de 10 kilos. Mmh. Donc, il était complètement asphyxié. Et là, je n'ai parlé à son médecin traitant, parce que je trouve qu'il n'a pas été assez énergique. C'est-à-dire que nous avons pris un rendez-vous, je crois, en avril, avec le pneumologue, qui m'a dit un rendez-vous pour septembre. Donc, avec un homme qui était comme ça, mais vraiment, il avait des difficultés respiratoires. Je ne comprends pas qu'on l'ait vacciné. La personne qui a fait le vaccin, je suis étonnée qu'elle ne se soit pas rendue compte que mon mari avait des difficultés respiratoires.
Mmh. Alors,
voilà, j'en suis là et personnellement, je vous avoue très franchement que ce n'est qu'accompagné de 2 gendarmes que je me rendrai à la vaccination. J'ai pour ma part, et ma fille m'avait également inscrite, et à ce moment-là, je ne savais pas que j'avais des problèmes. J'ai eu une douleur dans la poitrine, mais assez haut, vous voyez, très près du cou, ce qui m'a fait penser, comme je suis assez rhumatisante, que c'était des rhumatismes. Et j'ai trop tardé à voir là aussi mon médecin, et je lui avais parlé seulement en février. Là, il m'a fait venir, il m'a fait l'électrocardiogramme, et il m'a dit il faut rentrer en urgence. Je suis entrée en urgence, là j'ai vu le cardiologue, qui m'a dit, après plusieurs jours, je ne trouve rien de vraiment, vos électros sont à peu près, on peut dire, normaux, il va falloir faire une coronarographie. Et pour cela, il faut prendre rendez-vous à l'hôpital, donc ce sera dans 3 semaines. Et en faisant la coronarographie, ils se sont rendus compte que j'avais une artère bouchée et l'autre rétrécie. J'ai donc subi, on m'a donc mis 3 stents.
D'accord.
2 pour la bouchée et 1 pour la rétrécie. Et vraiment, je suis restée pantoise parce que j'ai eu une petite vie. Vous savez, je n'ai jamais fumé. Je ne peux pas dire que j'ai fait des abus, quels qu'ils soient. Et le médecin m'a expliqué, mais madame, vous avez 85 ans, le sang épaissit, les artères se durcissent, et il n'y a rien de... Il y a d'autres personnes comme vous qui subissent cette chose-là. Il n'y a rien d'anormal. Mais est-ce que si j'avais été vaccinée avant, j'ignorais que j'avais ça, donc est-ce que j'aurais pu avoir, comme mon mari, un problème de cet ordre-là?
Alors, d'abord, avant tout, Michel, je tiens à vous présenter mes condoléances parce que votre mari est décédé il y a très peu de temps et vous êtes tout encore à la stupeur de...
Oh, je suis dévastée.
Mais je comprends. Et de fait, cette histoire de vaccination ne fait qu'aggraver évidemment les choses parce que elle vous fait... C'est déjà difficile d'accepter la mort, la fin de la vie de celui avec qui on a partagé sa vie, mais quand on a le sentiment qu'elle est accélérée, que ce soit vrai ou faux, hein, nous n'avons pas les compétences, ni vous ni moi, scientifiques, pour savoir ce qu'il en est réellement, même si vos doutes sont tout à fait audibles et mériteraient effectivement un peu plus de recherche dans ce domaine pour savoir de quoi il s'agit exactement et de la responsabilité, bien sûr. Mais pour l'heure, évidemment, petite personne que je suis à l'autre bout de ce micro, je ne peux pas en dire grand-chose, si ce n'est que je comprends que tout d'un coup, les choses se précipitent justement quand on fait un vaccin et qu'on estime, enfin qu'on a le sentiment, puisque c'est comme tel qu'il est vendu, on a le sentiment qu'il est justement protecteur. Après, il est protecteur peut-être de ce dont il s'agit, à savoir du Covid, mais peut-être pas de tout. Et peut-être est-il en effet, fait-il flamber des pathologies qui sont là dormantes ou plus dormantes d'ailleurs, puisque vous disiez que votre mari a d'autres pathologies. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'à ce moment-là, vous savez, quand on perd aussi subitement quelqu'un qui... avait des symptômes, mais vivait avec ses symptômes. Il n'y avait pas d'aggravation, il n'y avait pas d'accélération. Tout d'un coup, évidemment, la responsabilité pointée est une responsabilité qui met en colère. Et il ne faudrait pas que ça vous fasse faire des vieux os vous-même et que ça vous rende malade. Hein. Et donc, tout ça est assez, assez difficile. Je crois que c'est un sujet délicat et je trouve important et bien que vous puissiez aussi vous exprimer, puisque en ce moment, la France me semble très fracturée entre... Deux discours et fondamentalement agressifs les uns vis-à-vis des autres, au lieu d'écouter la légitimité des peurs ou des besoins de protection des uns, ou au contraire les adhésions et les besoins de protection des autres d'autres manières. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux discours, il y a un mot d'ordre, mais il y a deux discours et chacun s'exprime sur son discours, et je crois que c'est important. C'est important de pouvoir s'exprimer. Du coup, je vous remercie d'ailleurs de votre témoignage. Je crois que sur cette libre antenne, beaucoup de témoignages sont un coup d'un côté, un coup de l'autre. Je crois qu'on peut comprendre une idée sans avoir à l'accepter. Hein. Donc, nos auditeurs qui écoutent peuvent entendre votre inquiétude sans avoir à y adhérer, mais en tout cas l'entendre et respecter. Et que votre témoignage soit une occasion pour moi de dire que accordons-nous les uns et les autres la liberté de la pensée de l'autre, parce que l'autre a le droit de penser différemment. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une attaque. C'est ce qui se joue pour lui et sa façon de gérer ses propres inquiétudes, ses propres peurs. Certains courent au vaccin par peur et d'autres fuient le vaccin par peur. Et toutes les peurs sont légitimes, bien évidemment. Et nous ne sommes pas scientifiques pour arbitrer de la justesse exacte. Et c'est ça toute la difficulté, bien sûr, et nous devons nous en remettre. Donc évidemment, chacun de nous, nous tentons de trouver où est notre juste place et ce que nous devons faire pour nous et pour les autres. Mais d'où votre peur ?
Vous voyez, dans la famille ou l'environnement, j'ai une petite voisine qui était très très souvent chez nous, elle nous portait le pain, elle sort le petit chien avec moi, en fait très très proche comme de la famille. Pour elle, c'est pareil, elle pense comme nous, qu'on nous l'a tué, quoi, qu'on nous l'a... Voilà.
Ah ben c'est sûr que c'est tellement...
C'est moche de rester sur une idée comme celle-ci, quoi.
Mais bien sûr. En fait, ce qui est difficile à déterminer, c'est est-ce que c'est, comme vous dites, le vaccin qui a tué votre mari, ou est-ce que le vaccin a fait un croche-patte à quelqu'un qui n'avait pas la capacité de se relever ? Parce qu'évidemment ça sollicite le système immunitaire.
Bien sûr. Il a trouvé un terrain propice.
Oui, bien sûr. Et ça pose évidemment toute la question, mais ça c'est une question...
Les femmes peuvent en discuter, évidemment.
Bien sûr, mais encore une fois, même la communauté médicale elle-même réfléchit de manière différente et se divise. Il y a beaucoup de tensions quand il y a... C'est assez, assez curieux que dans un moment comme ça aussi, où notre monde est fragilisé, où notre peuple est fragilisé, c'est tellement dommage qu'à ce moment-là, on ne s'unisse pas même dans des pensées divergentes, s'unir, c'est pas nécessairement adhérer, c'est pas une voie unique, c'est réfléchir, s'enrichir les uns et les autres, ne pas chercher à avoir raison, chercher à trouver les solutions et les solutions adaptées à tous. Or, le problème, c'est qu'il n'y a aucune solution bonne pour tout le monde, puisque nous n'avons pas tous la même histoire, nous n'avons pas tous la même anxiété, nous n'avons pas tous le même corps, la même génétique. Donc, une solution pour l'un n'est pas la solution pour tous. C'est pour ça que même quand on fait des études sur un médicament, le médicament n'agit pas sur tout le monde. Il est en échec sur certains. Et ça, c'est la part un peu inconnue de la singularité de chacun d'entre nous. Et c'est très difficile quand tout d'un coup, une loi se fait pour tous, sans exception.
Oui, c'est certain.
Et donc, vous avez aujourd'hui, comment d'abord, outre, vous avez beaucoup à faire avec ce deuil.
Je dois voir le cardiologue, justement. Oui. Et je vais lui demander, en raison de ce que j'ai eu, si il faut me vacciner ou pas. Voilà, je vais demander. En plus, là, je ne vous cache pas que je suis dépressive.
Mais je comprends bien.
Donc, compte tenu de ces deux choses-là, est-ce qu'il faut me vacciner ou pas ? Je ne voudrais pas faire comme mon mari, bien sûr.
Bien sûr. Et surtout que les choses sont toujours difficiles. Comme vous le disiez, vous avez déjà une fragilité, une pathologie. Vous venez d'être opéré. Votre corps subit beaucoup de choses, parce que c'est pas anodin, c'est pas une piqûre de moustique, un vaccin. Pour autant, ça veut pas dire qu'il fait des ravages, mais tout dépend de la compétence que nous avons en termes d'énergie.
Oui.
Est-ce que c'est le bon moment pour vous ? Est-ce qu'il faut pas attendre un peu ?
Est-ce qu'il faut pas
avoir un meilleur moral pour pas ensemencer, même psychiquement, l'idée d'une impossibilité, l'idée d'une dangerosité, parce que
j'ai très peur, je fais comme la personne il y a quelques jours là.
Oui, je comprends.
J'ai très peur, évidemment.
Bien sûr, je comprends, et c'est tellement légitime.
Ah oh, bien sûr. Et on ne sait comment faire, parce que avoir le Covid, vous ne vous en sentez pas non plus.
Bien, certains s'en sortent. On ne meurt pas automatiquement. Mais effectivement, là encore.
À mon âge,
voilà. En fait, c'est pas que vous ne pourriez pas vous en sortir. C'est que, encore une fois, c'est la même chose que pour cette histoire de vaccin. C'est que vous avez des pathologies, des fragilités. Et le coup de pouce du Covid, est-ce que votre corps a assez d'énergie pour s'en défendre? Ou est-ce qu'au contraire, le Covid vous met en grand péril, voire effectivement vous tue? C'est vraiment un arbitrage que seuls des médecins éclairés et qui prennent le temps de réfléchir peuvent... Et la confiance que vous leur accordez. Je crois que important, c'est de...
Oui, il va me dire ce que je dois faire.
Voilà, c'est pas seulement ce qu'un médecin vous dit, c'est un médecin en qui vous avez confiance. Ça, c'est important.
Oui, j'ai confiance en lui, oui. Je pense que je... Oui.
Et peut-être lui suggérer, est-ce qu'il y a péril en la demeure ou pas ? Vous êtes amené à voyager, vous êtes amené à voir du monde, vous êtes amené à...
C'est ce que je voulais vous dire également, parce que nous sortions très peu. Nous sommes en réalité des confinés. Nous sortions, presque uniquement pour les courses, quoi.
Mmh.
Aller au centre commercial... à la charcuterie, et puis c'était à peu près tout.
Mmh.
Vous voyez, nous sortions très peu, et avec nos masques, nous étions quand même bien confinés.
D'accord, et vous avez l'intention de le rester encore, là ? Vous êtes encore convalescente, là ?
Oui. Surtout avec ce qui a l'air de se préparer, là.
Oui.
Là, je vais être confinée, ma fille, qui n'est pas loin d'ici, me portera ce qu'il faut. Mais je sortirai très peu, si ce n'est le petit chien avec lequel je fais un petit tour tous les soirs.
Bien sûr, ce qui est d'ailleurs très bien aussi pour votre santé. Vous avez besoin de vous oxygéner, c'est important de prendre l'air. Surtout pour cet état déprimé, dépressif dans lequel vous êtes actuellement. Parce que là, on cumule un peu les difficultés. Il y a d'abord le chagrin de la perte de votre mari.
Énorme.
Mais bien sûr,
c'est un chagrin immense.
Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est votre cœur, enfin en tout cas vos artères qui tout d'un coup se sont serrées. Vous savez que souvent on dit, quand on a des chagrins comme ça, comme si le cœur était oppressé. Et vous voyez que vous avez eu des symptômes qui en ont témoigné d'une certaine manière par ce resserrement de ces artères sur lesquelles il a fallu mettre des stents pour justement vous permettre de retrouver votre élan, l'élan de ce moteur qui est votre cœur. Hein. Donc c'est votre cœur qui a été atteint au décès de votre mari.
Il a saigné mon cœur, j'ai l'impression.
Ah oui, vous voyez, c'est symboliquement.
C'est symbolique. Mon chagrin est très, très. Il est immense.
Mais je comprends. Mais je comprends, Michel.
Et... Bon, nous avions 50-50 de mariage et nous entendions bien, quoi.
Mais bien sûr.
Voilà.
Et même quand on se.
Bout de chemin encore.
Mais bien sûr, et c'était tout à fait légitime. Et même quand se chamaille, on n'est pas prêt à se quitter. Et surtout pas.
C'est très, très difficile. Très dur, très difficile.
Vous arrivez un peu à projeter votre vie sans lui. Là, il y a l'immédiateté du Covid et de.
Pas du tout. Je pense que c'est peut-être me rapprocher de mon fils qui est à 800 km et qui est dans le Midi.
D'accord.
Et vous voyez, j'ai beaucoup aimé. C'est une région où j'ai vécu 30 ans. Mm-hmm. J'ai eu beaucoup de bonheur parce que j'ai rencontré mon mari. Et j'ai eu mes enfants également là-bas. Mm-hmm. Donc, c'était du bonheur pour moi, cette région.
Et vous êtes prête à changer de vie.
Et je crois que j'irai retrouver mon garçon là-bas.
Et alors, mais est-ce que vous avez des amis ou vous n'avez que votre fils là-bas?
Oh non, il y a beaucoup d'amis.
D'accord.
Il y a beaucoup d'amis parce que mon mari, il travaillait. Il avait un bureau d'études dans la construction. Mm-hmm. Donc, il nous reste, j'ai prévu pas mal de personnes déjà. Nous avons encore beaucoup de personnes qui sont, j'en ai appelé encore une ce soir, là, qui étaient navrées, mais qui n'arrivaient pas à croire que c'était possible.
Mmh. Oui, je comprends. Donc en fait, aujourd'hui, évidemment, comme vous ne pourrez très certainement pas démêler le vrai du faux de cette histoire, les conséquences... mais vous aurez toujours cette suspicion et cette inquiétude. Or, il faut que cette inquiétude, au moins pour vous, s'apaise, pour que vous puissiez d'abord dire au revoir paisiblement à votre mari qui, selon vos croyances, selon votre sensibilité, vous accompagne encore aujourd'hui ou pas, selon comment vous l'entendez.
Mon mari lui-même dit, parce qu'il a tout le temps été conscient,
oui.
Et il me disait... le produit en question là, a trouvé un terrain propice avec des poumons.
Mmh.
Donc, et il le disait lui-même.
D'accord. Oui, donc voilà, lui il s'est rendu compte de ce qui était en train de se jouer en lui.
Oui,
en tout cas, c'est comme
ça
qu'il a voulu l'entendre. Il a quand même, notons que votre mari était un coquin tout de même, hein, parce que...
Oui, c'est... Il me disait mourir du Covid, bon, très bien, mais mourir du vaccin, ça fait pas sérieux quand même.
Il avait de l'humour, votre mari?
Oh, il a beaucoup d'humour, d'humour, oui.
C'est bon aussi de se souvenir de ça, ça permet de voir les choses, de prendre un peu de recul par rapport aux choses, pour un peu adoucir les choses. Mais aujourd'hui, maintenant, il va falloir faire le temps de ce deuil. J'entends que vous avez...
C'est très difficile.
Bien sûr.
Lorsque le soir tombe, c'est là que c'est le plus difficile.
Bien sûr.
Il y a un manque, mais alors... vous savez, il était le pilier. Il avait toujours été le pilier dans sa famille. Maintenant, les enfants avaient pris leur envol. Mmh. Mais... il restait le pilier, quoi.
Oui.
Papa avait dit ça, bon, c'était bien, quoi. Voilà.
Bien sûr, bien sûr.
C'est très difficile.
Vous étiez très dépendante de lui, je veux dire, dans votre vie de tous les jours, ou est-ce que vous avez...
Tellement, parce que j'avais passé mon permis de conduire et n'avais jamais conduit. Donc, je dépendais de lui pour bien des choses, parce que nous habitons un quartier qui est hélas comme beaucoup de quartiers où tous les petits commerces sont fermés.
Mmh.
Donc il faut prendre sa voiture et aller au centre commercial qui est, je ne sais pas, 1,5 km, 2 km.
À peu près.
Donc dès que je voulais faire quelque chose, j'avais besoin de lui pour... il m'arrivait d'aller prendre le bus, mais qui est assez loin également,
mmh.
et qui, vu mon âge, commence à ça commence à devenir un peu compliqué.
Bien sûr, mais je comprends, Michel.
Voilà. Mais donc, je le fais quand même encore pour marcher.
Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien.
J'ai vraiment besoin, par exemple, en ce moment, j'ai besoin de refaire ma carte d'identité. Donc, je vais à la mairie avec le bus.
Bien sûr.
Et je vais à mon rythme et voilà.
Bien sûr.
Ça va, mais je trouve qu'il faut marcher.
Ah, mais vous avez raison, il faut
garder. Je ne suis pas la personne à rester devant un ordinateur, voilà.
Non, mais vous avez raison, surtout que c'est le meilleur moyen pour procrastiner, c'est
le
meilleur moyen pour être
déprimé. Et puis, avec mon problème cardiaque, là, il m'a bien recommandé.
Oui, oui, il ne faut pas vous demander des exercices de jeûnette, mais pour autant, il vous faut marcher, il vous faut respirer
à
bien.
À mon rythme de marcher un peu tous les jours.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, Michel. Et puis,
je suis aidée par mon petit chien là,
qui est une motivation.
Qui m'invite à sortir.
C'est bien.
Voilà.
Il est une motivation, il est plein de...
Et qui est aussi une compagnie.
Bien sûr.
C'est un petit King Charles et c'est un pot de colle. C'est plein d'amour.
Oui, ça c'est merveilleux, les animaux sont
adorables.
Sont des boules de tendresse et d'amour.
Absolument.
Quand les hommes oublient parfois de se les procurer, de se les échanger, de se les donner, les animaux, eux n'oublient pas. Et ça c'est assez merveilleux.
Vous savez, souvent, il met sa tête sur mon front. Là. Mm-hmm. Il se met sur l'oreiller, il met sa tête sur mon front.
Mm-hmm.
C'est très affectueux. Là.
Bien sûr. On pourrait prêter des tas de pensées à cela, comme une façon de s'entendre de l'intérieur.
Oui,
en quelque sorte,
je pense
tête contre
qu'il souffre également.
Bien sûr.
Je vois qu'il est triste et je crois qu'il a bien compris ce qui s'était passé.
Mmh. Oh, mais
oui,
ça n'a pas douté. C'est-à-dire que vraiment, les animaux ne sont pas des objets. Hein. Ce sont des petites vies avec des neurones qui sont très agissantes et qui sont très au fait de ce qui se passe.
Ah oui, il a très très bien compris. Il se mettait très souvent sur les genoux de son maître.
Mmh.
Et il aimait beaucoup son maître. Et son maître également l'aimait beaucoup. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Oui.
Et donc,
nous sommes tous les deux dans la tristesse. Voilà.
Oui, vous partagez votre tristesse.
Nous partageons.
Et d'une certaine manière, il vous allège un peu en l'apportant un peu lui-même.
C'est vrai.
Il vous invite à la vie par les besoins de promenade.
Oui, il a un peu plus de 4 ans en plus.
D'accord,
il est jeune.
Il est encore tout jeune.
Voilà.
Donc il va falloir évidemment tout doucement remonter la pente
oui.
de la vie, sortir de cet état de tristesse mêlé de déprime inévitablement. Il va falloir aussi réparer vos forces, retrouver vos forces.
Oui, mais... C'est difficile à 85 ans, vous savez, il faut dire la vérité, on s'approche de la porte de la sortie.
Oui,
j'en suis consciente. J'aimerais rester encore un peu avec mes enfants, mais le chemin qui me reste à faire, que j'ignore d'ailleurs, me paraît difficile et presque insurmontable.
Et pourquoi vous paraît-il difficile ? Est-ce par incapacité de faire avec la solitude.
De vivre sans lui.
C'est ça, c'est la solitude. C'est ça.
Ah oui, oui. J'arrive très mal à vivre sans lui.
Et oui, je comprends. Je comprends, ouais. C'est toutes vos habitudes qui sont perturbées. D'où le besoin peut-être de changer de lieu pour justement qu'il
peut-être.
Soit moins associé à tout
ça. J'essaierai afin de voir si en m'éloignant et en retrouvant le pays où j'ai vécu 30 ans, je vais trouver un peu de, je dirais pas de joie de vivre, mais de accepter la vie, quoi, qui me reste. Je veux voir ça.
Et vous avez commencé à regarder, votre fils s'en occupe, ou est-ce que c'est pour l'instant que dans votre
Antibes.
Tête
Nous étions à Antibes.
D'accord.
C'est une très, très, très jolie petite ville.
Oui, très.
Et que j'aime énormément.
Mmh.
Alors peut-être que cette ville va m'aider à... C'est là que j'ai rencontré mon mari, je vous dis. J'ai eu mes enfants, mes enfants sont nés là. Peut-être que tout cela me permettra de faire ce petit bout de chemin qui me reste.
Mmh. Votre fille vous encourage à cela ou est-ce qu'elle peine à l'idée que vous la quittiez ?
aimerait que je sois près de lui. Oui,
oui, votre fils, mais votre fille qui est aujourd'hui à vos côtés, est-ce que elle vous encourage
également? Ma fille également. Oui. Parce que je vis dans un très grand appartement. C'est d'ailleurs trop lourd à porter financièrement, car il est très gourmand en chauffage. Mmh. Il est haut de plafond, vous voyez. Mmh. Il y a un grand couloir, donc il est. Et elle me dit, tu vas t'ennuyer. De plus, c'était l'appartement de mes parents que nous avons repris parce qu'il est de plein pied. Mmh. Et si vous voulez, je vois pas mal de fantômes.
Mmh.
C'est lourd, quoi.
Il y a trop d'histoires dans cet appartement.
Il y a trop d'histoires dans cet appartement, oui. Il y a eu de belles histoires, mais il y a eu les fins de tous, là. Ils sont tous partis. Mmh. Donc... je crois que j'aurais intérêt à le quitter.
Et vous voyez, c'est ce que vous dites, j'entends à la fois la difficulté à se projeter, à avoir de la vie encore pour soi, encore un bon bout de temps, et à la fois l'envie fondamentale de vivre.
Oui.
Pardon ?
Vieux.
Michel, je n'ai pas entendu ce que vous me disiez.
Voilà, donc ce sont les projets, mon âge, ce sont les projets que j'échafaude ensemble.
Oui. Mais
pour faire, je vous dis, le petit chemin qui me reste à faire.
Mais, oui, mais si petit soit le chemin, on ne sait pas quelle d'ailleurs la dimension, mais quand bien même il serait petit, c'est un chemin qu'il est bon de vivre, comme vous disiez tout à l'heure. Quand bien même
le
on
mieux
marche
possible.
Pas.
Bien le mieux sûr. Possible. Je voudrais surtout pour mes enfants ne pas être triste, ne pas être modestie.
Oui.
Et rester à peu près en bonne santé, quoi.
Bien
pour
sûr.
Ne pas être une charge, comme tout le monde, je pense.
Bien sûr, mais bien sûr. Et puis c'est désobligeant pour soi, c'est se voir dans la difficulté. Dans la dépendance, dans la souffrance, se montrer ainsi, ce n'est pas très valorisant, c'est pas laisser les meilleures traces de soi. Et puis, ce que je trouve très joli dans ce que vous dites, Michel, c'est qu'il y a de toute façon en vous beaucoup, il y a quand même une appétence à la vie formidable. J'entends le chagrin, j'entends la déprime, j'entends l'inquiétude, j'entends la peur qui est la vôtre.
Voilà.
J'entends aussi le fait que vous vous laisseriez bien faire, si on vous dit que c'est sans risque, eh bien vous ferez parce que c'est sans risque. Et à la fois, il y a quelque chose chez vous de très combatif, où vous dites, je n'irai pas si ce n'est entre deux gendarmes, et je vais aller dans le sud, parce que c'est là que c'était ma vie d'il y a 30 ans.
Ah oui, j'étais heureuse, quoi.
Bien sûr. Donc il y a
la belle partie de la vie, quoi.
Absolument. Donc il y a en vous cette nécessité de vivre des jolies choses. Et ça, c'est formidable. C'est là-dessus, vous savez, qu'est-ce qui fait la différence? Moi, j'ai souvent été frappée quand il m'est arrivé d'accompagner des gens malades ou mourants. J'ai toujours été frappée du mauvais caractère ou du tempérament affirmé des gens, même très, 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 très malades. Et tant qu'ils étaient comme ça, d'une certaine manière, ils témoignaient de leur combat pour la vie. Que ce soit pas toujours très gentiment ou très joyeusement, mais du combat pour la vie. Et pour certains, tout d'un coup, ils lâchaient prise. Et ils se laissaient aller, ils se laissaient flotter.
Oui, oui.
Et d'une certaine manière, ils renonçaient à la vie. Et je crois que c'est important ce temps de vie, il est le vôtre. Personne ne doit vous le souffler et vous ne devez pas y renoncer parce qu'il y a manifestement en vous justement cette joie envers et contre tout. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de désolation, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de peur. Mais il y a une envie de vivre, Michel, et dont vous avez témoigné ce soir. Y compris en faisant ce témoignage pour tous ceux qui étaient en doute et qui, du coup, écoutant votre message et votre inquiétude, eh bien, vont s'interroger pour leur propre liberté.
Bien sûr, bien sûr. Je vais retourner, si je peux y aller,
oui.
Je veux retourner à l'endroit même où j'ai rencontré mon époux il y a 55 ans.
Eh bien, je vous invite, Michel, à, du coup, à y retourner. Et à lui dire bonjour de notre part. parce que peut-être vous attend-il quelque part dans vos pensées quand vous y serez, qu'il vous suivra.
Ça fera beaucoup de bien.
Absolument. Eh bien,
je revivrai cet instant.
Eh bien, c'est ça. C'est ça, avec joie et avec peut-être larmes. Mais avec.
Ça a été une soirée que je n'oublierai jamais. Et ça me fera plaisir de la revivre. Des années après.
Eh bien, je vous le souhaite. Je vous souhaite une très bonne soirée et encore une fois.
Je vous remercie.
Je vous envoie tout mon courage.
Beaucoup.
Je vous souhaite bon courage.
Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée également.
À vous aussi, Michel. Prenez grand soin de vous. Au revoir.
Au revoir.